Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Dans le chant de l'arc et cette élégie après la mort de David, de Saül et Jonathan, nous nous arrêtons à la finale de ce chant merveilleux où il est dit clairement, donc de manière étonnante aussi par certains côtés, et donc le merveilleux pour moi ton amour plus que l'amour des femmes. Et la Vulgate ajoute comme une mère aime son fils unique, ainsi je te chérissais. C'est-à-dire que nous parlions à cet égard de la tendresse, ce mot sur lequel revient souvent le pape François. Et dans Jean Guiton l'avait bien écrit dans un éditorial qui était du 11 juin 1979, et il écrivait ceci: « Il est possible que nous découvrions bientôt une nouvelle manière d'aimer. Il faudra alors trouver un mot nouveau. Je propose tendresse. Que sera cette nouvelle tendresse dont il a existé tant de contrefaçons ? Larmoyante, mièvre, ce que Valéry, Monterland, Mauriac ont dénoncé comme étant la douceur d'être faible. Joubert disait que la tendresse est le repos de la passion. Relisez nos littératures, anciennes, classiques, romantiques, elles ne connaissent que les paroxysmes. Corneille, Racine ne sont pas tendres, je dirais que Pascal est ardent, que Bossuet est dur, que Fénelon est sec, etc. L'évangile n'est pas toujours tendre, sauf Saint-Luc où je trouve parfois, ainsi dans l'anecdote de l'enfant prodigue dans les disciples d'Emmaüs, ce que Shakespeare devait appeler le lait de la tendresse humaine. Et parmi les peintres, continue Guiton, parmi les peintres je ne vois que Rembrandt qui est exprimé la tendresse, cette fleur de l'ombre. Et son pinceau a pris de la tendresse dans la pudeur et jusque dans la solitude. Et pourtant, je continue encore cette lecture, pourtant les œuvres ne sont vraiment belles que si on y sent ce je ne sais quoi qui fait pleurer, comme disait Hugo. Ce qui revient à dire qu'après avoir traversé tant de déserts et tant d'horreurs, nous allons peut-être rencontrer la tendresse. Même Valérie, si peu tenté par ce piège épouvantable, comme il l'appelle, a redécouvert à la fin de sa vie Loust, la demoiselle de cristal. Mais qu'est-ce donc que la tendresse ? C'est ce qui occupe l'intervalle immense, intraduisible entre le tout et le rien, entre la passion et l'indifférence. Elle est quotidienne, familière, changeante, inventive, silencieuse. Elle a des attentions, ce qui vaut mieux encore que l'attention. La tendresse, c'est de pouvoir se taire ensemble, la main dans la main, sans aucune gêne. Ces mots d'amour, de charité qui sont usés, remplacez-les par tendresse. Essayez de lire la Bible avec cette clé. La tendresse, je la compare à cette défaillance de la lumière un soir d'été, quand le soleil s'incline devant le crépuscule. C'est l'heure d'Emmaüs. Ou encore je la compare à la lumière de l'automne, et c'est d'ailleurs à l'âge automnal que l'expérience de la vie vous apprend la tendresse. Nous sommes actuellement à l'automne, frères et sœurs. Le printemps, à mon sens, est acide, ambigu. Comme la femme, selon Claudel, c'est une promesse rarement tenue. Je cite. L'été, n'en parlons pas. Il faut ajouter peut-être que tendresse rime avec tristesse, une certaine tristesse. Mais c'est qu'il y a dans la vraie tendresse une sorte de mélancolie féconde. Et à la fin de sa vie, David se rappelle, au moment où il rédige ses mémoires, là, il s'agit pas du texte de la Bible, mais du texte d'un auteur que je cite ici un peu longuement, de Mémoire du roi David, de Carlo Coccioli, mais qui a sa beauté aussi. « Pourquoi ton âme, demandai-je à Jonathan, s'est-elle attachée à la mienne ?» L'an soir nacré d'un jour où sans cesse il était tombé une pluie fine, un soir lent, dans une pièce peu éclairée, toute la journée ensemble, toute la journée en silence. Et je suppose que ma question inattendue fut naturellement engendrée par notre silence, lequel n'était pas, j'en suis certain, comblé, ainsi que la plupart des silences et des mots imprononcés, mais étranger aux mots dans la mesure où ils ne dépendaient d'aucune chose. Bref, notre silence ressemblait à ce par quoi nous étions attachés. J'ai saisi le propos d'un sage, il ne savait pas que je l'écoutais. Tout amour, disait-il, qui dépend d'une chose, s'évanouit avec elle, mais l'amour qui ne dépend d'aucune chose ne s'achève jamais. Je vous donne l'exemple d'un amour qui dépendait d'une chose, celui d'Amnon pour Tamar, c'est dans le livre de Samuel au chapitre 13. Il s'agissait d'un amour incestueux entre un fils et une fille de David qui n'avaient pas la même mère tout de même. Et je vous donne l'exemple d'un amour qui ne dépendait d'aucune chose, celui de David et de Jonathan. Mais pour dire « chose », le sage employait le mot « davar », en hébreu qui à la fois signifie « parole ». Donc l'amour de David et Jonathan était au-delà des choses, était au-delà des paroles. Cette fin d'après-midi, lente mélancolie, j'ouvris cependant la bouche, immobile sur un divan au tissu doré, tandis que Jonathan, et nous nous trouvions chez Jonathan, était recroquevillé sur le tapis. J'ouvris la bouche au prononcer d'une voix si basse que c'était comme si seulement je les pensais, les vers que j'avais chantés près de Saül, figés tels une idole. Ah, qu'il est bon et qu'il est doux, c'est un psaume, pour deux frères d'habiter ensemble. C'est égal sur la tête à l'huile parfumée qui descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est égal à la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et, accompagné d'une pointe de surprise, une pensée fugace me traversa. Qu'est-ce qui faisait que l'idée-image de Sion eut de si étroits rapports, quoique de nature vague, avec Jonathan, mon ami? Alors, inattendu, vint la question : pourquoi ton âme s'est-elle attachée à la mienne ?